Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninna Trey. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, est un essai de vulgarisation critique de Dalbert Mukhyber, docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Le livre part donne un constat simple et actuel, le cerveau est devenu une explication passe-partout pour nos émotions, nos décisions, nos performances ou nos fragilités. Cette fascination, que l'auteur appelle Neuromania, s'accompagne souvent de raccourcis séduisants, de slogans pseudo-scientifiques et de promesses marketing. Elle objectif n'est pas de rejeter les neurosciences, mais de rappeler ce qu'elles permettent réellement d'eux d'établir, et ce qu'elles ne peuvent pas conclure seules. Mukhyber s'attache ainsi à démystifier des idées reçues répandues, à expliquer comment naissent les neuromythes, et à remettre les résultats de recherche dans un cadre plus large, où compte aussi la psychologie, l'environnement, la culture et les interactions sociales. Le lecteur est invité à gagner en esprit critique face aux discours neuroscientifiques du quotidien. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la neuromania comme phénomène social et médiatique, le point de départ du livre est la manière dont les neurosciences circulent hors du laboratoire. Le terme neuromania désigne moins une discipline que son usage social à l'attrait pour toute explication estampillée cerveau, et la tendance à l'utiliser comme argument d'autorité. Dans les médias, en entreprise ou dans certains domaines de la formation et du développement personnel. Le vocabulaire neuroscientifique peut donner un vernis de rigueur à des idées pourtant fragiles. Mukhyber montre que ce glissement s'appuie sur une attente culturelle forte. Si un comportement est rattaché au cerveau, il semble plus vrai, plus objectif, parfois même plus inévitable. Or, cette rhétorique peut réduire la complexité humaine à des mécanismes biologiques isolés, en oubliant les dimensions sociales et contextuelles. Le livre invite donc à distinguer le savoir scientifique, construit avec des méthodes et des limites, de sa mise en récit simplifié. Cette clarification a un enjeu concret. Elle protège le lecteur contre les fausses évidences qui orientent les choix, les politiques de management ou les décisions éducatives. Et elle redonne une place centrale à la nuance et à l'incertitude, qui font partie intégrante de la démarche scientifique. Deuxièmement, déconstruire les neuromythes les plus courants, une partie essentielle de neuromania consiste à passer au crible des croyances très répandues sur le cerveau. Parmi elles figure l'idée que nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau, la division des personnes en cerveau gauche et cerveau droit. Ou encore l'existence de zones uniques et exclusives pour des fonctions complexes comme à l'amour, la créativité ou la décision. Mukhyber ne se contente pas de n'affirmer que ces récits sont faux ou trompeurs. Il explique pourquoi ils sont intuitifs, pourquoi ils se diffusent si bien, et en quoi ils déforment la réalité des connaissances actuelles. Le cerveau est décrit comme un système interconnecté où de nombreuses fonctions reposent sur des réseaux et des interactions plutôt que sur des compartiments simples. Elle n'est pas seulement théorique. Ces mythes peuvent influencer la manière dont on se perçoit, dont on catégorise les autres ou dont on vend des méthodes de déapprentissage et de performance. En rétablissant des repères fiables, le livre apprend à reconnaître les formulations trop nettes, les oppositions binaires et les explications qui promettent une cause unique. Il propose ainsi un antidote pratique aux slogans neuro qui saturent l'espace public. Troisièmement, méthode scientifique et piège de interprétation, Neuromania insiste sur la différence entre un résultat de recherche et l'histoire qu'on en tire. Un point clé est la confusion fréquente entre corrélation et causalité. Notamment lorsque l'on observe qu'une région cérébrale s'active pendant une tâche et que l'on en déduit que l'on est la cause unique. Mukhyber rappelle que les outils d'onimagerie et les protocoles expérimentaux sont puissants, mais qu'ils imposent des cadres, des simplifications et des prudences de l'interprétation. Il met également en garde contre le réductionnisme, et à dire la tentation d'expliquer des phénomènes complexes, comme les croyances, les comportements sociaux ou les émotions, uniquement par des mécanismes neuronaux. Ce rappel méthodologique a un rôle éducatif. Il permet au lecteur de mieux évaluer la solidité d'une affirmation scientifique, de repérer les généralisations abusives, et de comprendre pourquoi des débats existent au sein même des sciences cognitives. Le livre ne demande pas au public de devenir expert, mais de développer des réflexes, demander quel est le protocole, quelle est la portée des conclusions et ce qui reste incertain. Cette culture de la preuve, appliquée au cerveau, devient une compétence générale de discernement. Quatrièmement, replacer le cerveau dans le contexte psychologie, culture et collectif. Un fil conducteur important du livre est la remise en contexte. Mukhyber conteste l'idée que nos bonheurs, nos peurs, nos addictions ou nos performances seraient uniquement des effets de notre chimie cérébrale. Sans nier la dimension biologique, il souligne que l'environnement matériel, les normes sociales et l'histoire personnelle et les interactions collectives participent à façonner les comportements. Cette perspective évite deux dérives opposées d'autant que Croire à une explication purement neuronale qui déresponsabilise ou naturalise des phénomènes sociaux et de l'autre, rejeter la biologie comme si elle était sans intérêt. Neuromania propose plutôt une articulation où les neurosciences éclairent certains mécanismes. Mais elles ne suffisent pas à elles seules pour comprendre des conduites humaines situées. Cette idée est particulièrement pertinente lorsqu'on parle de jugement, de prise de décision ou de formation des croyances, thème que l'auteur aborde aussi à travers le prisme des biais cognitifs, en mettant le collectif au centre. Le livre invite à réfléchir aux conditions qui favorisent ou freinent le changement, et à la manière dont des discours s'implantent sur le cerveau peuvent masquer des leviers sociaux, éducatifs ou politiques. En dernier lieu, application prudente de formation. Management, décision et engagement, Neuromania s'adresse aussi aux lecteurs qui rencontrent les neurosciences dans des contextes appliqués, comme la formation professionnelle, les ressources humaines ou le management. Le livre met en garde contre les offres qui transforment le préfixe « neuro » en argument de vente. Par exemple, des promesses de recablage du cerveau ou des méthodes prétendues cerveau-compatibles qui reposent sur des mythes. La place, Mook Haber, défend une approche fondée sur la rigueur, utiliser les apports réels des sciences cognitives sans surinterpréter. Dans cet esprit, il insiste sur l'utilité pratique de notions comme les biais cognitifs, qui affectent le recrutement, l'évaluation, la prise de décision et la communication. Il évoque aussi des pistes de bon sens compatibles avec ce que l'on sait de l'apprentissage et de la motivation, par exemple la clarification des objectifs, le fractionnement en étapes ou l'importance des dynamiques de groupe selon les situations. L'intention n'est pas de fournir une boîte à outils miraculeuse, mais d'aider à construire des pratiques plus lucides, plus sobres en promesses et plus attentives au contexte. Le lecteur ressort avec une grille de lecture pour trier les approches sérieuses des discours séduisants mais infondés. En conclusion, Neuromania s'adresse à un large public curieux de science, lecteur lassé des explications simplistes mais aussi professionnel de la formation, du management ou des RH exposés à l'inflation du vocabulaire neuro. Son bénéfice principal est intellectuel et pratique à la fois, intellectuel. Parce qu'il rétablit une compréhension plus juste de ce que les neurosciences peuvent dire du comportement humain. En montrant les limites des interprétations rapides et la nécessité de penser en réseau, en méthode et en niveau d'analyse. Pratique, parce qu'il entraîne le lecteur à repérer les neuromythes et à adopter des réflexes de vérification qui valent bien au-delà du tome du cerveau. Le livre se distingue de d'autres ouvrages de vulgarisation par sa posture, il ne vend pas une nouvelle recette d'optimisation personnelle, il ne promet pas une clé unique. Et il refuse d'utiliser la science comme argument d'autorité. La place, il redonne de la place au doute, au contexte et au collectif, ce qui est rare dans une catégorie souvent dominée par le développement personnel neurocompatible. On en sort plus lucide face aux discours médiatiques, plus prudent face aux promesses commerciales et mieux armé pour articuler biologie, psychologie et environnement dans la compréhension de soi et des autres. Si vous souhaitez soutenir Albert Mook Haber, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.